Si aujourd'hui le cannabis a été reconnu dans le monde entier comme étant une plante qui soigne, qui soulage et qui peut apporter du bien-être aux personnes, je pense que le débat, il est clos. Notre population aujourd'hui, elle est prête. Maintenant, il suffit que le politique fasse justement son travail aujourd'hui et qu'on aille beaucoup plus vite. Moi, je voulais juste montrer à la population polynésienne que c'est une plante qui a été créée justement par Dieu, et non pas par l'homme. Et le rapprochement que je fais justement avec ça est de ne pas oublier que le chanvre a été introduit par les catholiques. Plus de 50% de la population de plus de 15 ans en Polynésie font usage du cannabis. Et donc je me suis dit, mais non, un jour je vais fumer comme je veux, où j'ai envie, ça je ne vais pas jamais le cacher, mais je vais quand même démontrer qu'on n'est pas con. Le mot il est là, tonton, l'éducation. Mon appel est de venir au syndicat polynésien du chanvre pour qu'on puisse développer ensemble cette filière. Parlons Ghana.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être avec toi. On est avec Karl Aliha. Aujourd'hui, avec Karl, qui est donc le président adjoint du syndicat polynésien du chanvre, on va parler d'énormément de choses. On va parler des spécificités de la culture et de tout ce qui entoure le cannabis en Polynésie française. On parlera aussi d'une anecdote piquante sur Karl face à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, Karl, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu d'un point de vue perso avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet?
Ok, d'abord, avant tout, je voudrais vous saluer tous et tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en métropole en France et je pense que aussi ici en Polynésie, en Calédonie, tous ceux qui nous suivent en tout cas sur notre page, puisqu'on partagera cette émission. Je voudrais vous remercier, Parlons Cana, de nous donner cette occasion, cette opportunité de pouvoir justement parler de nous. On est à 18 000 km de la métropole. On est un territoire dispersé sur une surface équivalente à l'Europe, composé de 120 îles.
Attends, Karl, là, t'es parti direct à fond dans le sujet. Ouais. Pour les personnes qui te connaissent pas, dans le monde du cannabis, tu as quand même ta petite réputation. Pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu plus personnellement? Et après, on va rentrer directement dans... vraiment pour les personnes qui ne sont pas bien au courant de ce qui se passe en Polynésie et puis après les sujets du cannabis.
Ok, alors je m'appelle Karl Aliha, Karl prénom allemand, qui vient, parce que mon papa était fan de football. Donc c'était Karl Hans Rummenigge qui était un champion de football allemand, donc c'est pour ça que je porte ce prénom-là, qui est quand même une facilité lorsqu'on va à l'école pour les professeurs métropolitains pour prononcer notre prénom. Karl Aliha, c'est moi. J'ai 40 ans, je suis papa d'un petit garçon de 8 ans, et c'est vraiment la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, je suis né dans une petite île, très petite île de 28 km, 2000 habitants, qui était connue ici en Polynésie comme étant une des îles, le grenier du cannabis, on va dire. Mais moi, je n'ai pas baigné dedans du tout. Et donc après, je suis venu faire mes études à Tahiti. En fait, on est obligé de se déplacer. Alors juste pour la petite histoire, peut-être une petite anecdote, j'ai été gendarme adjoint volontaire en France, à Paris, à l'aéroport international de Roissy. Et voilà, peut-être que c'est un peu le contraste. Aujourd'hui, je me retrouve en tant que militant et président pour la légalisation du cannabis en Polynésie, bien après que j'ai effectué cette petite expérience en France en tant que gendarme, qui m'a beaucoup servi en tout cas. Voilà, hein, qui je suis en gros, en général, c'est ça. Et donc, en fait, où est-ce qu'on se situe en Polynésie? Pour ceux qui ne connaissent pas la Polynésie, c'est un territoire français. C'est un territoire français. Nous sommes dans l'océan Pacifique et la zone que couvre la Polynésie française, elle est large comme l'Europe, très exactement. Et donc, en fait, on a un système politique qui est tout à fait différent, comment on dit, qui est presque similaire à celle de la France métropolitaine, c'est-à-dire qu'on a un président, qu'on a une assemblée territoriale, qu'on appelle l'Assemblée nationale en France. Et en fait, cette assemblée, elle est faite comme en France pour faire des lois, pour faire avancer la partie législative. La distinction, c'est que on n'élit pas notre président au suffrage universel direct. C'est qu'on, d'abord, on vote pour nos représentants à l'assemblée. Ce sont les représentants à l'assemblée qui votent pour le président du pays. C'est ce qui s'est passé il y a exactement 3 semaines maintenant. Et ce que nous sommes très contents aujourd'hui, c'est que nous avons changé de gouvernement avec un gouvernement beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus, tolérant au sujet, beaucoup plus ouvert à la discussion. Et surtout que notre président est favorable à une légalisation du cannabis, que ce soit thérapeutique, médical, industriel et même récréatif, par le biais des Cannabis Social Club, dont il a fait justement, il a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale l'année dernière, le 16 avril, et qui est en cours justement d'analyse au CESE, au CESE, et puis on verra la suite en fait. Donc l'idée dans le fond de ce projet de loi est que la Polynésie puisse être un terrain d'expérimentation au niveau national, et puis comme c'est loin du territoire français, ça peut justement leur permettre de se dire, ok, c'est loin de chez nous, et on va essayer l'expérimentation là-bas, et si ça marche bien, on va peut-être le reconduire en France. En fait, c'est peut-être une idée comme ça, d'accord? Alors, on devait rencontrer notre président cette semaine.
Attends, Carl, désolé, je te coupe, parce que c'est vraiment important pour la suite qu'on comprenne bien. Donc, en fait, il y a des élections pour les représentants qui sont à peu près l'équivalent des députés en France. Ces représentants-là élisent le représentant de la Polynésie française, mais quel est le lien vraiment? Tu vois, par exemple, est-ce qu'il y a un préfet? Quel est le lien vraiment entre le pouvoir politique du président qui est élu par les représentants que les Polynésiens, eux, ont élus? On commence un peu à se compliquer, mais tu vois ce que je veux dire?
Je comprends pas.
Quel est le lien vraiment entre...
Alors, la distinction, c'est que nous ne sommes pas un département français. Nous sommes, on va dire, on a un statut spécial, mais il y a toujours un représentant du gouvernement, de l'État français, donc, c'est-à-dire le représentant du gouvernement Macron. Dans les départements, c'est ce qu'on appelle un préfet. Et ici, chez nous, c'est ce qu'on appelle un haut commissaire. Donc, en fait, on est un peu toujours armée, c'est militaire, on va dire. Hein. Donc, le haut commissaire est le représentant du président Macron ici en Polynésie. Maintenant, lorsque le président Macron est venu en Polynésie il y a 2 ans, nous avons eu l'occasion de rencontrer le délégué à la sécurité intérieure auprès du ministère de l'Intérieur, le préfet, monsieur Pierre Rose. Alors voilà, la réponse, elle a été simple lorsqu'on lui a demandé, écoutez, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que la Polynésie ne peut pas justement légiférer, apporter une réglementation autour du chanvre, du cannabis et tout? La réponse de ce préfet a été simple. La souveraineté de votre pays se trouve entre les mains du président du pays. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir du président de Polynésie est assez étendu. Et donc, il a la possibilité aujourd'hui de demander directement au gouvernement central de nous donner la possibilité de faire une expérimentation. Aujourd'hui, la loi nous permet de faire des recherches dans le domaine de la science, ce qui a commencé déjà depuis 2020, qui est en cours en fait d'élaboration, et nous sommes très très près du dossier, donc nous le suivons exactement. Maintenant, il y a certaines compétences qui sont propre à la Polynésie, au président de la Polynésie et à l'Assemblée de la Polynésie. Il y a d'autres compétences qui ne le sont pas. Donc, en fait, les pouvoirs du président du pays sont assez étendus et donc il a quand même des moyens de manœuvre qui lui sont accordés. Par exemple, justement, de pouvoir créer, faire des recherches du domaine de la scientifique. Ça, c'est une réalité. Dans le domaine de l'agriculture, la compétence revient au pays. Et donc, en fait, notre président du pays avait proposé une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre une expérimentation de l'usage récréatif par le biais des cannabis social club. Donc, en fait, dans son idée, lui, c'est que si nous faisions, nous, une expérience ici en Polynésie et que ça devient concluant, pourquoi pas l'étendre justement jusqu'à la métropole en France, parce que la grande inquiétude des autorités françaises, c'est que le faire sur le territoire français, ils ont peur qu'il y ait des débordements. Donc, je pense que pour eux, si c'était assez loin de la métropole et qu'on puisse avoir une visu ou une analyse sur cette situation-là, peut-être qu'on pourrait l'étendre à la France métropolitaine. Ça, c'est juste mon avis, hein. Donc, mais c'est une discussion qu'on a eue avec notre président du pays actuellement. Et au-delà de tout ça, les compétences qui nous sont accordées, comme l'agriculture, la santé, la fiscalité et tout ça, nous permettent de réfléchir à un cadre de légalisation et de réglementation propre à la Polynésie française en vue d'un développement économique et de prétendre à une autonomie certaine, d'accord? Parce que nous, on dépend beaucoup de l'importation ici en Polynésie. Voilà ce que je pouvais dire en gros, hein. Mais le rapport que l'on a avec l'État français et n'est pas un rapport tendu, bien au contraire. C'est beaucoup de discussions et l'État est toujours là pour nous accompagner. Maintenant, nous, on sait très bien que tout vient des décisions politiques locales. Mais aujourd'hui, on a de la chance, on a un président qui est beaucoup plus à l'écoute et qui nous a confirmé que ce sera un de ses dossiers prioritaires dans le mandat qui lui est accordé, c'est-à-dire pendant 5 ans. Voilà.
Ah oui, à ce point-là, ok. Et alors, pourquoi est-ce que ce serait aussi important pour la Polynésie d'avoir justement la légalisation du cannabis?
Alors, la légalisation du cannabis, ça va être très très large, hein. Alors, de quoi on parle nous aujourd'hui? On parle vraiment du médical, du thérapeutique et de l'industriel. Pour l'instant, pour la légalisation dite récréative, je pense qu'il faudra passer par un référendum, ou je ne sais pas quelles seront les solutions pour plus tard. Mais aujourd'hui, si on parle d'un point de vue médical, thérapeutique, le Covid nous aura appris à tous, en tout cas dans le monde, je ne sais pas comment ça s'est passé, que nous avons beaucoup souffert pendant cette pandémie. Et en fait, on se rend compte de quoi? C'est que on n'a pas une autonomie suffisante de pouvoir créer nos propres médicaments, de pouvoir se soigner. Pour nous, le Covid a eu bon dos pour l'association Tétier Culture, puisque nous avons, pendant cette année, continué à accueillir la population de Tahiti et beaucoup se sont soignés aux huiles de cannabis, aux baumes, etc., et tous les produits, en fait. Et aujourd'hui, ils ont vu, la population aujourd'hui, elle est très, très au courant de ce qui se fait aujourd'hui avec le cannabis. Et en fait, on a réalisé que si demain, il y aurait une autre crise sanitaire comme ça, comment est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Je ne dis pas que le chanvre et le cannabis est la seule solution, mais il faut réfléchir aujourd'hui à une autonomie et à une indépendance pour que ce genre de situation, si ça se reproduit, nous soyons déjà prêts et que nous ayons les plantes aujourd'hui pour pouvoir se soigner. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Ils ont utilisé des plantes endémiques de la Réunion, de la Guadeloupe ou de la Martinique pour pouvoir soigner justement la population. Donc ça, dans un point de vue de santé publique, ça, c'est clairement, c'est pas un débat. Je pense que c'est une nécessité, c'est un état de nécessité. Si aujourd'hui le cannabis a été reconnu dans le monde entier comme étant une plante qui soigne, qui soulage et qui peut apporter du bien-être aux personnes, je pense que le débat, il est clos. Il faut le faire. Dans un autre point de vue, agriculture, c'est-à-dire que nous dépendons beaucoup de l'importation. Et aujourd'hui, le chanvre, très peu le savent en Polynésie, mais il n'y a pas que le consommer en fumant. Il y a aussi des compléments alimentaires. On peut se loger, on peut se vêtir et tout ça. Ce sont les besoins du quotidien, en fait, aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on pouvait justement réduire au maximum les importations, hein, de tout ce que l'on vit aujourd'hui, déjà dans la construction de nos maisons, il faut exploiter le chanvre dans les matériaux de construction. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons des partenaires internationaux qui sont prêts aujourd'hui à venir nous aider et à développer cette filière ici à Tahiti. Et notamment, j'ai notre ami qui est à l'île de la Réunion, là, qui fait des formations et, auprès des planteurs à l'île de la Réunion. Et quand j'ai vu qu'il avait demandé au ministère de l'Intérieur de surélever le taux de THC, parce que dans ces régions-là, il nous est impossible, quasiment impossible, de maintenir un taux de THC en dessous de 0,3% à cause, nous le savons, hein, du climat, de l'ensoleillement, de notre situation géographique. Donc aujourd'hui, moi, ça me motive aussi à continuer dans ce sens-là. Donc en fait, dans un premier temps, c'est vraiment de réduire notre dépendance extérieur à l'importation. Ce sont les premières choses. Je ne vais pas parler du cannabis récréatif parce qu'à l'heure actuelle où nous en parlons, c'est comme si c'est légalisé, tout le monde le fume, tout le monde le fait déjà tous les jours. Maintenant, le gros problème, c'est la sécurité sanitaire qu'il y a derrière tout ça. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que des analyses sur la teneur en toxicité de ces produits-là soient effectuées afin de protéger le consommateur sur ce qu'il consomme, bien évidemment, illégalement, dans les rues, dans la rue, tout simplement, tout ça. Voilà, ce sont les grandes lignes, hein? Ce sont les grandes lignes de notre combat depuis toutes ces années, mais la première chose qu'on faisait, c'était de l'information auprès de la population, et ça, ça dure depuis 10 ans. Voilà, ce que je pouvais dire, t'entends la mienne.
Alors écoute, dans ces grandes lignes, ça m'a donné énormément de questions. La première, c'est, tu nous disais au début que toi, tu es né sur une île qui était connue pour être le grenier, une réserve un peu de cannabis. Et avec ce que tu nous rajoutes ici, je me pose la question, comment est-ce que les Polynésiens en général perçoivent le cannabis? Est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs? Est-ce que ça a plutôt bonne réputation, mauvaise réputation? Est-ce qu'il y a une histoire particulière dans ces îles avec cette plante-là?
Alors, ce que je sais, moi, hein, par rapport à mes recherches et par rapport à ce que j'ai pu découvrir, l'introduction du chanvre, hein, elle a été faite par les missionnaires catholiques français sur une des îles, parce qu'il y avait une mission, on va dire une mission d'agriculture en France, où il fallait justement faire recenser toutes les plantes dans chaque expédition qu'ils faisaient. Et donc, ils ont introduit le chanvre dans une des îles pour pouvoir réparer leurs voiles, les bateaux, les matériaux de construction, ainsi de suite. Plus tard, bien plus tard, il y a eu une île où on exploitait du phosphate, Makatea, une très grosse réserve de phosphate. Hein. Des Européens sont venus pour te dire que cette petite île, très très petite, hein, moins de 20 km, je pense, regroupée en plus de 3000 personnes, elle était aussi développée que le Japon à l'époque. Il y avait des trains, oh, okay. Il y avait le micro-ondes, donc il y avait vraiment, on était dans une aide de développement énorme. Donc en fait, ces Européens, en venant ici, ils ne sont pas venus les mains vides. Donc ils sont venus avec leurs loisirs, leurs plaisirs, l'alcool, le tabac, et bien évidemment, il y a eu aussi l'introduction du cannabis et d'autres drogues. Et bien plus tard après, dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, des Américains sont venus s'installer en Polynésie, justement pour éviter que l'ennemi s'installe dans tout le Pacifique. Donc ils se sont installés à Bora dans les années 1945. Et comme on le sait, ceux qui vont à l'armée, ce ne sont pas les enfants de bonne famille. La plupart, ils viennent dans des quartiers un peu chauds. Et donc, ils sont eux aussi venus avec leur consommation personnelle de drogue. Donc, tout ce qu'on peut trouver, en fait, un peu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le cannabis, il est perçu comment aujourd'hui? Une chose est sûre, c'est qu'elle est présente dans quasiment un foyer sur deux, ce qui est énorme. Un foyer sur cinq cultive. Et donc, en fait, un foyer sur cinq cultive, ouais. C'est une étude qui a été menée par le président, M. Moïté Bouderson, lorsqu'il était député pendant le colloque. En fait, c'est beaucoup plus perçu comme une économie de soutien. Donc, en fait, en Polynésie, on a le soleil, on a des terres facilement accessibles. Donc, c'est beaucoup plus facile pour une population en difficulté de s'orienter vers un peu cette culture qui devient une culture de subsistance, beaucoup plus. Okay? Les professionnels de la culture, les passionnés de la culture du cannabis aujourd'hui, qui existent encore, ils sont encore là, mais à la différence qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui, du fait que la répression, elle est beaucoup plus importante ici qu'en France. C'est-à-dire que le travail des forces de l'ordre, elle est à 80% concentré sur les cultures de cannabis.
Waouh, 80%.
Voilà. C'est pour se dire que toutes les semaines, on a au moins une quinzaine de planteurs, petits planteurs, qui va de 15 plantes à 20 plantes, 30 plantes, 150 plantes, qui passent devant le procureur presque tous les mercredis et tous les jeudis. Voilà. Donc, en fait, comment est-ce qu'on perçoit le cannabis ici aujourd'hui? Ici, on a la facilité de reconnaître, par exemple, on va m'attraper ou on attrape quelqu'un avec sa plantation, il ne va pas le nier, il va le dire, oui, c'est à moi. C'est pour moi, c'est pour manger, c'est pour éviter d'en acheter, c'est pas pour faire de choses, c'est comme ça. Donc en fait, on a une acceptation facile du cannabis un peu dans sa répression, dans son acceptation et dans son déni un peu dans la société aujourd'hui. Mais on vit avec. Mais on vit avec tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Donc en fait, le cannabis, comment te dire, est très 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 présent en Polynésie. Par contre, ce qui est très très absent, c'est l'information. C'est l'information sur la plante. D'accord. Aujourd'hui, la seule vraiment image que l'on a du cannabis, c'est son côté récréatif et le côté lucratif. Voilà. En gros, comment est-ce que le cannabis est perçu en Polynésie? Voilà.
Ok, d'accord. Parce que tu alternes souvent chanvre et cannabis. Ouais. C'est vrai qu'en France, il y a une distinction qui est assez souvent faite entre le chanvre, qui est plutôt pour la partie chanvre industrielle, pour le bâtiment, le textile, etc., la litière animale, etc., et le cannabis, qui est plus pour la sommité florale et plus pour ses effets.
Ici, ils font probablement la distinction parce que justement, par ce manque d'information, pour eux, chanvre, c'est le cannabis, c'est le chanvre. Donc, ils font pas vraiment de distinction ici. Voilà.
Je pense qu'on y reviendra, mais ça m'amène quand même à la deuxième chose qui m'a interpellé quand tu nous présentais les grandes lignes du cannabis en Polynésie française. C'était le fait d'avoir ce besoin d'indépendance. Et tu parlais aussi d'indépendance, ou en tout cas de réduire cette dépendance sur le volet alimentaire, sur le volet matériaux de construction, etc. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui, quel est un peu l'état de l'agriculture en Polynésie? Et est-ce que du coup, pour vous, pour le SPC, l'un des objectifs, c'est vraiment de pouvoir cultiver aussi du chanvre, pas tellement pour ses fleurs, mais plus pour le chenvis, et pour pouvoir faire les graines décortiquées, de l'huile alimentaire, etc.
En fait, dans le SPC, c'est exactement ce sont ces choses-là qu'on aimerait développer ici en Polynésie. Sauf que nous savons déjà que si on veut le faire à un niveau international pour faire de l'exportation, nous ne serons pas concurrentiels. On ne pourra pas. Mais déjà, de le commencer dans une petite collectivité au niveau des communes. Si seulement on pouvait développer des coopératives avec des agriculteurs de chaque commune, pour que chaque commune puisse avoir des parcelles de terre et pouvoir développer ça dans la commune. Bien sûr, on en a toujours besoin, mais déjà dans un premier temps, c'est pour le marché local et non pas pour l'importation, pour l'exportation. Ça, c'est clairement ça. Maintenant, aujourd'hui, depuis le 29 décembre, où le Conseil d'État a autorisé l'exploitation de la fleur pour en extraire du CBD, ici, chez nous, dans notre pays, nos politiciens ont fait tout le contraire. Ils ont interdit l'extraction et l'usage de la fleur pour l'extrait du CBD. Voilà un peu, je vais te montrer la différence politique. C'est-à-dire que les lois en France, en métropole, ne s'appliquent pas automatiquement et systématiquement en Polynésie. Elles dépendent du bon vouloir de nos élus. Certaines lois, bien sûr. Il y en a d'autres où elles ne sont pas du tout, il n'y a pas lieu d'avoir un débat, elles s'appliquent automatiquement. Sauf qu'encore une fois, pour faire appliquer une loi, il faut encore beaucoup de travail par derrière, un travail des élus, faire des délibérations, faire des arrêtés, mettre en application ces lois-là. Et aujourd'hui, c'est là où peinent beaucoup nos politiciens, en fait. Et c'est pour ça qu'on est dans un statu quo, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, pour avoir eu des informations avec notre président du pays, sa priorité aujourd'hui, c'est bien le chanvre industriel. Pour l'instant, ce n'est pas le cannabis médical ni le cannabis thérapeutique, mais dans ce qui est faisable tout de suite, aujourd'hui, demain, c'est bien le chanvre industriel. Maintenant, en condition de revoir ce projet de loi qui a été voté là il n'y a pas longtemps, en janvier, et de corriger tout ce qu'il y a à corriger dans ce texte de loi. Par exemple, la graine, ils le considèrent comme un stupéfiant. Il nous est interdit aujourd'hui d'importer la graine. Donc, voilà.
D'accord. Pourtant, je crois que il n'y a pas tellement d'aucun cannabinoïde dans la graine.
Non, non.
C'est vraiment dans la fleur. Okay.
Mais apparemment, chez nos chez nos érudits de nos gouvernements ici. Je ne sais pas dans quel livre ils ont été voir ça, mais ils ont été. De toute façon, nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État. Nous sommes dans l'attente justement d'une réponse du Conseil de l'État pour justement amender ces articles. Il y en a 4 au moins dans ce projet de loi qui ne convient pas et en fait qui est contraire au développement de la filière du chanvre et qui ne vient pas apporter de projet de société et économique. Donc en fait, c'est tout le contraire. Mais on est dessus, on travaille. Bien, clairement, oui, on est dans cette... on veut développer la fibre, la graine, mais pas dans une vision d'exporter, mais dans une vision de la développer localement pour les besoins locaux. Voilà ce que nous on peut dire. De toute façon, on a des idées dans lesquelles on a déjà travaillé. Moi, je me rappelle, il y a 9 ans, 8 ans, j'avais pris contact avec la société Ecobat de France qui faisait justement des produits en chanvre en France. On avait demandé à envoyer, enfin, on a eu des produits, mais il nous a été toujours difficile de pouvoir, par exemple, participer à des foires agricoles ou à des foires d'exposition pour pouvoir présenter justement des produits à base de chanvre. Mais aujourd'hui, non, ça se passe très bien maintenant. Enfin, après toutes ces années, ça se passe plutôt bien, quoi. Voilà.
Et c'est-à-dire que même pour présenter une... un drap tissé en fibre de chanvre, c'était interdit parce que chanvre c'était banni.
En Polynésie, tout est interdit. En Polynésie, il n'y a aucune, ils ont tout mis dans le même sac, en fait, ils ont interdit. Et il n'y a que là, depuis le mois de janvier, ils ont quand même, ils ont été plus souples. Donc, ils ont autorisé aujourd'hui, on autorise en Polynésie dans notre projet de loi l'exploitation du THC à plus de 0,3% uniquement pour les pharmaciens et les médecins dans la fabrication de médicaments. Sauf qu'ici, on n'a aucune structure, aucun moyen de fabriquer des médicaments pour l'instant, mais c'est déjà une chose qu'on puisse nous autoriser. Et le cannabis à moins de 0,3% est légal, c'est-à-dire le cannabis industriel. Maintenant, pour mettre en place ce projet de loi, depuis le 5 janvier de cette année, nous avons un an, c'est-à-dire jusqu'au 5 janvier l'année prochaine, pour mettre en application ce projet de loi en Polynésie. Et c'est justement les réponses qu'on attend du président. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il veut abroger ou amender ce projet de loi ou il veut le retirer complètement pour remettre un autre projet de loi? Parce qu'on a un autre projet de loi aussi qui est à l'Assemblée, qui est en attente. Donc en fait là, on n'en sait pas plus. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le 13, lorsqu'il arrivera, il nous donnera toutes les réponses. Et on sait une chose, c'est que le chanvre industriel sera sa priorité pour cette année. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
Incroyable, incroyable. Et alors du coup, c'est vrai que je prenais pour acquis le fait qu'il y ait un marché du CBD peut-être équivalent à celui de la métropole, mais en fait, pas du tout.
Il n'y a rien.
On voit en France, le CBD, ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis premièrement de parler de cannabis, parler de chanvre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que n'importe quelle mamie, n'importe quel père de famille pouvait aller dans une boutique de CBD et se renseigner sur finalement le cannabis. Ça a quand même permis de beaucoup éduquer. Et alors du coup, comment est-ce que toi, avec le SPC, enfin comment est-ce que vous faites ça en Polynésie pour pouvoir parler de ce sujet-là en ayant 100% des produits qui sont encore illégaux?
C'est la grande question que je me pose depuis 10 ans. Alors comment je fais? Ben je fais comme tout le monde, on utilise les réseaux sociaux, on utilise une forme de communication, mais une chose est sûre, c'est que parler du cannabis même sous un jour favorable et pas hein, c'est une infraction. Je le sais moi-même en tant que gendarme parce que je l'ai été, donc je le savais pertinemment. Mais je me suis heurté justement à ça parce que je disais tout le temps ce manque d'information. Ce manque d'informations. Et je me suis rendu compte que très peu ici connaissaient beaucoup de choses autour de cette plante. Et donc, on a organisé notre 18 juin, le premier 18 juin 2012, mais sans être une association, uniquement en étant un collectif de personnes, d'associations, d'artistes, de non-fumeurs, de fonctionnaires d'État, de policiers, qui en avaient marre de cette situation-là. Donc, ça avait commencé comme ça. Et lorsque j'ai vu qu'en 2012, il y avait toutes ces personnes qui étaient là et qui voulaient justement avoir des informations et pour qu'on puisse continuer comme ça, c'est seulement là que j'ai décidé de créer une association l'année d'après, en 2013, pour pouvoir organiser tous les ans le 18 juin légalement. C'est-à-dire que l'équivalent du préfet qui est ici chez nous, le commissariat, les services du commissariat m'ont juste demandé ça. Et donc j'ai créé cette association dans ce seul but. Et la seule journée où il nous était autorisé d'informer la population, c'était que le 18 juin. Donc pendant toute l'année, on n'avait pas le droit d'en parler. Et donc j'ai fait juste de la désobéissance civile via les réseaux sociaux. Cette ténacité et puis de ne jamais lâcher, ce qui a fait que les médias se sont intéressés de plus en plus. Et donc tous les ans, en fait, tous les médias nous ont toujours couverts, ont toujours couvert tous les événements que l'on faisait. Je vais juste raconter des petites anecdotes comme ça. C'est que pendant 10 ans, il nous est arrivé d'arriver à une émission télé, à une émission radio et de se faire annuler là une minute de l'émission parce que la communication ici était très, très difficile. Donc la perception du cannabis était encore quelque chose de très mauvais. Et dans une île où 90% de la population est chrétienne, donc imaginons bien que c'était très, très difficile en fait de casser les mœurs, on va dire, dans certaines mentalités ici. Alors comment est-ce qu'on en fait ? On s'est dit qu'à un moment donné, que la communication ne suffisait plus. Et moi, à mon niveau, je voyais qu'en France, le CBD sortir en 2016, je voyais des bombes, je voyais beaucoup de choses se faire. Et je me suis juste dit, mais je suis français, pourquoi je ne le fais pas ? Pourquoi je n'ai pas le droit, hein, tu vois ? Après, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis nous, on l'a fait, on a commencé à faire. Mais je me suis beaucoup, beaucoup inspiré du cirque, du collectif d'information et de recherche cannabis, de Éric Chapelle, qui est décédé, qui est parti aujourd'hui, Farid Guéwesh. En fait, je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de la French Connection, tu vois, parce que là, j'ai vu que, waouh, il y a du militantisme et il y a des actions concrètes et je voyais tout ça. En fait, c'est tout ce qui m'a motivé aujourd'hui de continuer. Je me suis juste dit, mais en France, on les embête pas trop. Comment on m'embêterait, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas été trop embêté, hein, honnêtement. Hein. Donc, la seule chose où j'ai été vraiment embêté, bah, c'était ce fameux plan de cannabis devant l'Assemblée. Hein. Ça, ça a été.
Alors, parlons-en. C'est quand même une anecdote qui est assez folle. Donc, un 18 juin.
Non, c'était un 5 mars. 5 mars.
Ah, donc, c'était même pas le 18 juin, la journée un peu autorisée.
Voilà, en fait, si tu veux, j'ai fait exprès de choisir cette date-là parce que c'est l'arrivée de l'évangile en Polynésie. C'est un jour férié. Et pour moi, en fait, en Polynésie, il n'y a pas la séparation des églises et de la religion et du pouvoir. Donc ici, les religions ont toujours un impact très fort sur les décisions politiques, ce qui me gêne beaucoup. Et donc, j'ai décidé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé clairement? C'est parce que, comme je te disais, je suivais beaucoup l'actualité en France. Je suivais beaucoup ce qui se passait. J'étais au courant qu'il y avait une expérimentation qui allait mettre en place, mais le Covid est venu retarder ceci, cela. Et en janvier 2020, j'entends en France que l'expérimentation va commencer. On était en janvier 2020. Et en fait, l'expérimentation a commencé que le 26 mars 2021, donc l'année d'après. Et face au mutisme politique, face à l'inaction de tous les politiques, en fait, tout simplement, sans exception, sans distinction, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Il y avait une expérimentation qui est arrivée, et il y avait beaucoup de malades qui nous demandaient, en fait, qui continuaient, que nous, on continue à voir, et ils se disent, ah, c'est très bien, en France, il va se passer quelque chose, est-ce que nous, on pouvait le faire? Donc, j'ai contacté tous les politiciens pour savoir où est-ce qu'ils en étaient. Personne n'a voulu me répondre. Personne n'a voulu me répondre et tout ça. Donc, on est le 3 mars 2020, 2 jours avant l'action. J'appelle la police nationale. J'appelle la police pour leur dire, écoutez, dans 2 jours, je vais planter un pied de cannabis devant l'Assemblée. Et l'autre, il me dit, non, un petit pied. Ouais, je vais leur prévenir. Tu vois, j'ai prévenu les médias. En fait, j'ai fait un live, j'ai fait un direct sur les réseaux sociaux, j'ai montré le pied de cannabis qui était derrière moi, je leur ai dit, ben, je vais venir et puis je vais le planter, tu vois. Et l'action était juste pour qu'on nous réponde, qu'on nous amène une réponse par rapport à ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite, tu vois. Et donc, personne ne me répond et ce jour-là, juste lavé, en fait, le matin même, et puis là, tout le monde, on se réunit et me dit, bon, on le fait ou on ne le fait pas. Et je dis, écoute, je vais aller jusqu'au bout et on va le faire. C'est tout ce qu'on a fait. Tu vois. En fait, dans toute la symbolique en fait, de ce geste, c'est aussi de rappeler à notre population qu'on a encore des surfaces qu'on peut cultiver. Et en plantant devant l'Assemblée, c'est juste pour vous montrer que ici, on peut planter, même devant l'Assemblée, c'est qu'on a encore des surfaces cultivables et c'est là que va venir justement le développement de notre pays, c'est dans le secteur primaire. Et tout va se faire. Et donc, après cette action assez médiatique, quand même, hein, non sans conséquence non plus, personnellement et familialement pour moi, tu vois, mais qui a eu quand même un écho jusqu'au politique. Et d'ailleurs, je voudrais remercier le député Moïté Broderson, qui a tout de suite réagi et qui a envoyé un courrier au procureur le jour de ma garde à vue pour demander au procureur et au directeur de la police d'être très clément avec à mon égard. Ce qui a été très reçu, qui a été reçu par l'autorité judiciaire, puisque je n'ai pas fait de détention provisoire jusqu'à ma comparution immédiate 3 jours après. Donc voilà, j'ai évité les barreaux. Mais je voulais remercier tout, en fait, qu'il y a eu un soutien populaire, en fait, assez fort quand même. Donc je m'étonne aussi de ça, quoi. Mais le politique a réagi. Et en fait, à la suite de cet événement, j'ai décidé de créer notre propre Cannabis Social Club pendant 1 an.
Et donc, juste pour revenir du coup sur cet événement-là, quelles ont été les retombées politiques et que tu as ressenties dans la population? Est-ce que ça avait réussi à les forcer?
Bien
Est-ce
sûr.
Que les gens, tu dis qu'ils t'ont soutenu, est-ce qu'ils t'ont juste soutenu parce que c'était toi, ou ils soutenaient aussi le message? Tu vois, oui, derrière sûr. Tout ça
ils ont compris le message politique. Donc tout le monde a plus ou moins, enfin la plupart, hein, la plupart, il y aura toujours des mécontents, mais tout le monde a bien compris que le geste n'était que politique. Et d'ailleurs, même la justice l'a compris, puisqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été relaxé totalement des faits qui m'ont été reprochés. 1 an de bataille politique quand même. Mais aujourd'hui, la justice m'a complètement blanchi et a reconnu l'acte militant et l'acte politique dans ce geste-là. Voilà. Et ensuite, la suite de tout ça, eh bien, c'est qu'on a eu un colloque. Le gouvernement, l'ancien gouvernement, a lancé les travaux sur la réforme de la règle de la délibération de 1978 sur les substances vénéneuses, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir ce projet de loi le 5 janvier. Donc oui, tous les...
Ça a marché, bravo.
Ça a marché, mais merci beaucoup. Hein. Voilà, tonton. Hein. Et puis après, ben, comme je disais, après cet événement-là, nous avons eu un an d'expérience très riche auprès de la population, parce que nous avons ouvert un Cannabis Social Club à la Polynésienne, avec une petite maison, avec des feuilles de cocotier, avec des bambous, ainsi de suite. Mais vraiment dans l'esprit local, vraiment dans l'esprit polynésien, où nous n'avons pas ces barrières de murs qui ferment et tout, c'est tout ouvert. Et pendant 1 an, nous avons reçu plus de 1000 personnes au Faré, pendant le Covid, pendant le confinement, au vu et au nez de la justice et du gouvernement, qui d'ailleurs, eux aussi, venaient parfois nous voir au Faré. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment cette reconnaissance, en fait, de ce que l'on faisait n'était pas juste du trafic, n'était pas du récréatif, mais vraiment de l'information auprès de la population. Et aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est que notre population, aujourd'hui, elle est prête. Maintenant, il suffit que le politique fasse justement son travail aujourd'hui et qu'on aille beaucoup plus vite. Voilà ce que je peux te dire sur cette petite anecdote. Voilà.
Non, mais anecdote très importante, parce que ça a permis beaucoup de choses derrière. Et d'ailleurs, du coup, je suis curieux de savoir comment... Bon, c'était certainement une période un peu spéciale, c'était au moment du Covid et tout ça, mais quelle était un peu l'organisation du Social Club? Est-ce qu'il fallait être adhérent? Est-ce que tout le monde pouvait se présenter? Quels étaient un peu les produits qu'on pouvait y consommer?
Ok, alors nous avions des produits qui étaient fabriqués localement, hein, artisanalement bien sûr, et nous avions aussi des produits qui étaient importés de France, de Suisse, d'Allemagne et même de Nouvelle-Zélande pour certains. Il n'y a pas de cadre légal. Donc en fait, le Cannabis Social Club n'a pas eu de réglementation ou d'autorisation spéciale. Tout a été fait encore une fois en désobéissance civile. Il nous est interdit de vendre des produits puisque ce sont des produits interdits. Donc tout ce qu'on faisait, c'est demander aux personnes d'adhérer à l'association. Et en adhérant à l'association, ils avaient droit aux produits gratuitement. Voilà. Et ça s'est fait grâce justement au soutien de beaucoup de planteurs ici localement et de personnes qui faisaient des transformations et qui s'y connaissaient déjà dans ces procédés-là. Et on a eu de la chance d'avoir des personnes qui sont arrivées de métropole, des ingénieurs, des scientifiques, qui ont voulu en fait changer de vie et puis qui sont arrivés ici en Polynésie avec toutes ces connaissances. On a eu d'autres personnes qui ont tenu des CBD shop en France. En fait, toute la connexion s'est faite comme ça. Et c'est comme ça qu'on a pu construire, nous, notre Cannabis Social Club ici à Tahiti. C'est vraiment en échangeant avec des personnes qui avaient des compétences et des connaissances, tout simplement. Et après, on continuait à travailler avec les associations en France comme principe actif, comme le cirque. Et comme d'autres associations qui, justement, nous suivaient depuis la métropole. Et on avait besoin d'eux pour pouvoir nous orienter. Il y avait aussi le professeur Autier du...
de l'expérimentation.
De l'expérimentation, justement. Et nous, on avait... Je vais vous dire, ce qui nous a permis de faire ça, c'est la clémence de la justice, la clémence des politiciens. Et ce qui nous a permis de faire ça très sereinement, et qui a été très accepté par la population aujourd'hui. Donc en fait, le Cannabis Social Club, si tu veux, je me suis beaucoup inspiré de Dominique Brock en 2014, en 2013, parce que je le suivais, et j'ai trouvé le concept tellement, tellement formidable. Et voilà, et puis je demandais à l'époque, ah, et nous aussi on voulait le faire ici, mais je me suis rendu compte que faites-le toi-même, sinon on va attendre, et c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai regardé comment Dominique faisait les choses. Il y avait aussi, comment il s'appelait tout le monsieur, là, Bertrand Rambaud, qui avait de la sclérose en plaques, et qui avait aussi cette association où il menait justement en Cannabis Social Club, et c'est ça. C'est comme ça que moi j'ai réussi à faire venir des personnes, à leur montrer en fait ce qui se passait en France, puisque c'était beaucoup plus simple pour eux à comprendre. Et ils ont compris que, ah ouais, il y a des choses qui se font différemment, il y a des choses qui se font bien, il y a des choses qui se font encadrer, accompagner et tout ça. Et moi, j'avais de la chance d'avoir des kinés, des psychiatres, des spécialistes en pneumologie, des spécialistes en dermatologie au sein de notre Cannabis Social Club. Et en fait, moi, je faisais juste le pont. Donc, vous traversez le pont, vous allez là-bas, vous traversez le pont, vous allez chez cette personne. Mais ne vous inquiétez pas, elle travaille avec nous. Mais la seule limite qui se mettait, c'est qu'il ne prescrivait rien du tout en termes de produits. Et à ce moment-là, c'est moi qui prenais la responsabilité pour tout le monde. C'est-à-dire que je fournissais ce que je pouvais dans mes moyens, avec les moyens qu'on avait aux personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut être satisfait d'avoir pu justement répondre à la plupart, je ne dis pas à toutes les demandes, mais au moins à 90% des demandes de la population qui était ici. Voilà comment on a fait.
Ok. Mais alors du coup, je comprends bien que c'était une organisation bien particulière, que si jamais le cannabis était légalisé, ce serait certainement une autre organisation. Tu disais aussi que c'était... grâce à la clémence de la justice et des politiques, en fait, c'est peut-être plus la compréhension, finalement, que la clémence. C'est peut-être pas tellement par gentillesse qu'ils ont pas réagi, mais plus par compréhension de ce que vous faites et du message derrière. Et je voulais juste revenir, du coup, quand même, donc, sur l'expérimentation médicale par rapport au cannabis thérapeutique qui est mené en métropole. Donc finalement, est-ce que la Polynésie en fait partie ou non? C'était la fin de ma question, vas-y.
À l'heure actuelle, non, pas du tout. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas inclus dans cette expérimentation. La première raison, c'est justement cette différenciation de statut. Donc, nous ne sommes ni un département, nous avons un statut d'autonomie, c'est-à-dire que c'est notre assemblée, notre président et nos ministres qui décident. Mais une demande d'extension de cette expérimentation a été faite par notre ancienne députée, Mme Nicole Sanquer, qui est toujours élue à l'Assemblée, d'ailleurs avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé au sein de l'Assemblée territoriale ici. Depuis le 26 septembre 2021, une demande d'extension a été demandée. Mais voilà, faute de gouvernement, on n'était pas dans la majorité. Ils ont laissé traîner le dossier, ils n'ont jamais répondu vraiment à cette extension. Nous avons eu des commissions avec la commission de santé. Nous sommes passés devant le CESEC, l'équivalent du CESE en France, en fait, qui ont rendu un avis défavorable, donc pour X raisons. La raison, c'est, au lieu de passer par une expérimentation, allons tout de suite vers une légalisation. Ok, voilà, donc un peu, ce sont des arguments qui, pour moi, visent un peu à noyer le débat. Mais cette expérimentation, donc ce projet de loi, il est toujours à l'Assemblée, aujourd'hui, et on attend justement, avec ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on continue sur le projet de loi du pays du 5 janvier, ou est-ce qu'on revient sur ce projet de loi qui demande une extension? Mais dans ce cadre-là, on sera dans la même situation qu'en France, c'est-à-dire qu'il va nous falloir importer nos médicaments. Donc à ce moment-là, où est-ce qu'on va l'importer? Où est-ce qu'on prendra les médicaments qui sont en France pour l'expérimentation, pour les emmener aussi en Polynésie? Ensuite, comme je t'ai fait rappeler, La Polynésie, c'est aussi vaste que l'Europe, mais il y a que de la mer autour, donc c'est un peu plus compliqué pour pouvoir rejoindre les îles et tout ça. Et l'autre point qui bloque, en fait, c'est le financement de l'expérimentation. Donc, en fait, la Sécurité sociale en France finance cette expérimentation. Et nous, ici, on a une équivalent qui est la Caisse de prévoyance sociale, qui est la Sécurité sociale. Donc, il faut qu'on discute avec eux pour la prise en charge de cette expérimentation. Nous les avons rencontrés l'année dernière. Donc, on a été reçu par le directeur de la Caisse de prévoyance sociale avec les médecins. Aujourd'hui, il a été remplacé. Mais on a eu une réponse comme quoi, aujourd'hui, ils sont prêts. Et on peut activer les choses aujourd'hui. Maintenant, il suffit juste que c'est le politique qui décide. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. Donc, on peut te dire aujourd'hui, c'est que cette expérimentation, si elle devait se faire, nous sommes prêts. Donc, il suffit juste qu'aujourd'hui soit acté par ceux qui décident, l'exécutif, tout simplement. Voilà.
Et génial, génial. Je vois bien que tout est en place. Je sais aussi que tu es très actif et donc on n'aura pas du tout de mal à suivre l'avancée de ce qui se passe en Polynésie.
Ouais.
On mettra forcément dans la description de l'épisode les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre. Toi, où est-ce que tu es le plus actif ? C'est sur Facebook ?
Ouais, Facebook, parce que je connais que ça. Je suis pas très Instagram, TikTok et tout ça. Puis, je fais des vidéos. Et puis voilà, je tiens à rappeler ça, c'est qu'il faut constamment informer, ne pas lâcher, parce que à partir du moment où tu lâches, il laisse le dossier de côté, ça va dormir. C'est pour ça que mon acharnement sur ça, elle est de plus en plus grandissante, parce que je vois le bout du tunnel, on va dire. Et puis donc, quand je vois ce qui se passe en France, je peux que me réjouir aussi sur une avancée localement, quoi. Donc je sais qu'en France, je suis beaucoup ce qui se passe en France, et on est obligé aujourd'hui de suivre ce mouvement et apporter aujourd'hui des réponses à notre population. C'est pour ça que je continue à faire ça. Bon, le jour où il n'y aura plus Facebook, je ne sais pas comment on fait.
Non, mais Facebook, c'est suffisant. On donnera ça à tout le monde pour que tout le monde puisse te suivre. Et ça me fait penser quand même, là, tu me tends une perche assez cool. Pour tous ceux qui écoutent Parlons Cana et qui donc sont curieux des sujets qui entourent le cannabis, comment est-ce que toi, tu te renseignes? Tu dis que tu suis beaucoup ce qui se passe en France. Qui est-ce que tu suis? Et voilà, quel organisme, quelle personnalité tu suis et en qui tu as confiance?
Alors, je vais pas juger, je suis tout le monde, on va dire, hein. Surtout, je suis le point de vue de chacun. Je vois des puristes, je vois des personnes qui sont plus dans le développement, tu vois, comment est-ce qu'on voit les choses dans le cannabis. Mais je vais pas dire que je suis quelqu'un en particulier. Je suis tout le monde pour que, en fait, nous puissions nous mettre en place un moyen et un système adapté à notre territoire, à nos spécificités, et pouvoir justement se différencier dans le travail du cannabis que l'on peut faire ici. Okay. Nous, je suis beaucoup Jean-Pierre, en fait. Jean-Pierre, enfin, moi, j'en suis fan. Hein. Jean-Pierre Galland est quand même une des premières personnes qui m'a beaucoup, beaucoup motivé. J'ai beaucoup suivi ses actions, j'ai lu ses livres. D'ailleurs, j'en ai beaucoup de ses livres.
Et Jean-Pierre Galland, qui est le fondateur du CIRC.
Ouais, du collectif d'information et de recherche cannabis. Et d'ailleurs, qui m'a fait l'honneur d'avoir été mon invité un jour dans un des directs que nous avons organisé sur la page. Et ça a été la concrétisation. Moi, j'ai dit, ça a été un rêve, quoi. Hein. Et aux États-Unis, je suis beaucoup Ed Rosenthal. Je suivais beaucoup aussi Frenchy Cannoli avant qu'il décède. Toutes ces personnes. Normal France. Farid Guéwesh, Fabienne Lopez de Principe Actif, tout ce beau monde, en fait. Et en fait, je m'inspire de toutes ces personnes. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, en Polynésie, je retrouve un vieil ami qui est très actif dans le milieu du cannabis aussi, c'est le docteur Sueur. Le docteur Sueur qui faisait partie justement de l'association Principe Actif qu'il a fondée avec. Et c'est le seul médecin français qui fait partie de l'IACM, International Association Cannabis Medical, qui est basé en Allemagne. Aujourd'hui, il est à la retraite et il fera partie, en fait, de notre équipe auprès du gouvernement, s'il veut, pour faire évoluer les choses. En fait, c'est grâce à M. Tanté Sueur, nous on l'appelle Tanté, c'est docteur, hein, docteur Sueur, qui lui, en fait, m'a fait connaître ses relations en France, en Allemagne et dans le monde entier. Et c'est comme ça que j'ai bien que je me suis bien intéressé au milieu médical, thérapeutique. Parce qu'avant ça, oui, bien sûr, je ne m'intéressais pas. C'est que ça me parle pas, je ne suis pas médecin. Hein. Mmh, et en voyant tous les bienfaits et tout ce qu'il disait, les études qu'il a mis en place, ça m'a vraiment fait un choc. un choc culturel, on va dire, dans la tête, quoi. J'avais moi-même pas cette conception des choses. Et lui, il a réussi. Et puis en rencontrant et puis en suivant justement des personnes en France, je me suis dit, oula, si en France, ils considèrent que la population n'est pas assez informée, je me suis dit que chez nous, ça devait être encore pire. C'est pour ça que en fait, j'ai décidé de suivre le mouvement comme en France, mais avec les moyens qu'on avait. Donc on devait organiser, faire une association comme le cirque. Mais je vous dis que j'ai mis un an pour mettre en place l'association parce que ça a été très difficile, ça a été ça n'a pas été accepté. Moi, je vous dis, ça n'a pas été accepté. Simplement, on a été...
Ça n'a pas été accepté par les politiques, enfin, par, je veux dire...
par la société
en général. Par la population en général, d'accord.
Pas, peut-être parce par que... la population, mais je parlerai plutôt par les représentants des religieuses, par les représentants politiques. Et puis ensuite, en choisissant la date du 5 mars comme date de création de l'association, c'était une provocation à leur égard, puisque en fait c'est un jour férié où justement la Polynésie célèbre ce jour comme l'arrivée de l'Évangile, donc assez sacré quand même. Et donc moi je voulais juste montrer à la population polynésienne que c'est une plante qui a été créée justement par Dieu et non pas par l'homme, et que le rapprochement que je fais justement avec ça est de ne pas oublier que le chanvre a été introduit par les catholiques ici, et grâce au chanvre on a connu la religion. Donc en fait c'était un peu ça le message.
Génial, je ne l'avais pas du tout compris comme ça, mais c'est vrai que, ouais. C'est vrai que au final le chanvre, il n'y a rien de plus,
il a permis de voyager.
Et naturel.
La première Bible a été écrite sur du papier de chanvre, la première constitution des Amis des États-Unis a été, et justement le chanvre a son histoire dans la Bible, et c'est tout là en fait, c'est tout l'enjeu. Je pense que petit à petit, ça sera beaucoup plus simple après pour la population d'accepter parce qu'elle est très très chrétienne. Mais il faut juste avoir ce déclic, je pense. C'est ça.
Et parce que quand tu disais que un cinquième de la population veut cultiver le cannabis, ouais. En fait, qui consomme ? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est plus les jeunes ? Est-ce que c'est plus les personnes qui souffrent, comme des malades qui se soignent avec ?
Alors depuis quelques années que nous militons et que nous voyons, on observe, j'ai eu l'occasion de rencontrer le procureur de la République ici, hein, le procureur général, et il a fait une annonce aux médias où il disait que plus de 50% de la population de plus de 15 ans en Polynésie font usage du cannabis. C'est énorme.
Plus de 50%,
c'est énorme. Maintenant, quel est cet usage ? Eh bien, aujourd'hui, cet usage, par le biais de nos actions, de nos vidéos, de notre information, où on montrait aux personnes comment faire le cannabis, comment faire leur huile, comment faire leur baume, eh bien, aujourd'hui, cet usage est diversifié. Elle n'est pas uniquement concentrée sur la consommation récréative. Aujourd'hui, les personnes qui cultivent et qui font usage du cannabis, parce que j'en suis très bien au courant, parce que je m'approche beaucoup de ces familles, des planteurs qui me disent... Aujourd'hui, les personnes qui viennent m'acheter des plantes, ce sont des femmes âgées, des familles, des papas, des enfants qui viennent chercher des fleurs pour leurs parents parce qu'ils veulent faire de l'huile, parce qu'ils veulent du baume, parce qu'ils ont vu sur notre page comment on faisait. Et bien voilà. Aujourd'hui, la demande en fleurs, lorsque vous faites des produits de bien-être, la quantité, elle est beaucoup plus exigeante qu'une simple quantité en consommation journalière. Donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui, l'usage du cannabis, elle est très très présente. Et lorsque moi, je sais, hein, la plupart des personnes qui se font attraper, à chaque fois, ils disent oh, « on travaille pour l'association Téticulture, on travaille avec Al, c'est pour faire des huiles, c'est pour faire du baume, etc. » Et la police et les gendarmes, ça les énerve parce qu'ils m'appellent, ils me disent « c'est chiant, hein, ils se rabattent tous sur toi, mais voilà le discours qui aujourd'hui sort. » Tout le temps devant les enquêteurs, c'est pour faire de l'huile, c'est pour faire du baume. C'est pour faire de l'huile, c'est pour faire du baume. C'est plus pour faire du trafic, c'est plus pour faire de la vente, c'est plus. Et puis voilà. Donc en fait, c'est le discours. Mais c'est plus qu'un discours, c'est une vraie réalité. Et j'en suis témoin aux premières loges. Je vois d'ailleurs, hier, j'étais dans une famille très très religieuse qui aujourd'hui cultive une dizaine de plantes uniquement pour faire leurs propres produits à la maison. Et voilà, moi, c'est un peu ma satisfaction quand même, hein, d'en arriver là et de se dire, eh ben, écoutez, vous avez tout compris, hein, faites-le. Mais n'oubliez pas, le médecin reste le médecin. Si c'est urgent, il faut aller à l'hôpital. Mais si vous pouvez avoir fait de la médecine préventive chez vous, à la maison, par le biais des plantes, l'alimentation, etc., on aura tout gagné. On aura tout gagné, ça commence chez soi. Et puis, c'est pour ça que moi, je suis bien content de continuer à informer dans ce sens-là. Et c'est grâce justement aux actions que je vois aussi en métropole qui m'encouragent à continuer dedans. Voilà.
Et j'adore ce que tu as dit, parce que là, c'est l'exemple même qui montre que, en fait, c'est l'éducation qui fait changer les comportements. C'est et c'est grâce à l'éducation que vous avez apporté, que tu as apporté, que les personnes ont pu découvrir d'autres méthodes de consommation et faire le pas. Et c'est peut-être quelque chose qui serait fait aussi en métropole, le fait que les personnes puissent faire de l'autoculture et au final devenir aussi elles-mêmes plus ou moins responsables de leur alimentation, de leur bien-être. Ce serait vraiment génial, mais en tout cas c'est assez incroyable que toi tu aies pu le constater, tu aies pu le voir avec du coup maintenant 10 ans d'éducation, 10 ans de vulgarisation sur ces sujets-là. Le fait que les personnes maintenant changent de comportement et utilisent le cannabis comme ça, c'est assez incroyable.
J'en reviens pas à moi-même. Hein. J'en suis assez... pas faire un jus de mots, je suis stupéfait. Je suis stupéfait par ces réactions parce que, de plus, je suis quelqu'un qui assume ma consommation publique. Et aujourd'hui, un peu, ça a été... voilà, le déclic, en fait, dans ma vie, c'est ça. C'est que lorsque j'ai perdu mon emploi parce que j'étais un consommateur de cannabis... Ça m'a beaucoup travaillé, je me suis dit, mais pourquoi autant de jugements, pourquoi autant de discrimination? Et donc, je me suis dit, mais non, un jour, je vais fumer comme je veux, où j'ai envie, ça, je ne vais pas jamais le cacher, mais je vais quand même démontrer qu'on n'est pas con, et qu'on est capable de faire des choses, et qu'on puisse partager, qu'on est capable de s'insérer socialement, et ainsi de suite. C'est un choix que de vouloir le consommer, sauf qu'aujourd'hui, je voudrais montrer aux gens qu'il n'y a pas que consommer, et de se retrouver devant ces gens qui se disent, au premier abord, ah, je ne vais jamais aller le voir parce qu'il fait que de fumer. Regarde, lui, il le fume tous les jours, tous les jours. Mais avec le temps, ils ont compris et ils sont venus d'eux-mêmes. Et ce qui est bien, c'est eux qui me le disent. Si, dans ton cas, avant, je ne voulais pas venir te voir. C'est quand je te vois fumer et tout, ça. Je me dis non, non, ce n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, quand ils viennent et qu'on discute, qu'on prend juste le temps, ils sont venus pour 15 minutes. Au final, on reste 3 heures parce qu'ils sont passionnés et parce qu'ils aiment. Et c'est des choses qu'on ne leur a jamais dit en fait, dans leur vie. Et ça change tout, en fait. C'est assez incroyable. Et même, on va plus loin, même dans l'éducation de la consommation de cannabis, aujourd'hui, je me retrouve avec des gens qui étaient de grands consommateurs, qui ont réduit considérablement leur consommation juste par une information et une éducation de la consommation sur la culture de la plante. En fait, le mot, il est là, tonton. L'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Et c'est ça qui fait que les gens vont pouvoir prendre conscience de l'importance. Il ne faut pas tout leur donner sur un plateau. Si tu leur donnes tout comme ça, ça va être de l'assistanat, en fait. Et c'est ça, en fait, que beaucoup de gens ont compris lorsqu'ils venaient nous voir au Faré. Et on leur expliquait, si tu as un jardin chez toi, moi, je leur donnais même des graines, des boutures, je leur donnais des plants. Des mamans, des papas qui n'ont jamais planté dans leur vie et qui revenaient aujourd'hui, qui viennent me raconter comme si... c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait dans leur vie et surtout, ils se sont découverts quelque chose. C'est incroyable. La plante de cannabis, elle peut agir autant intérieurement qu'indirectement. Et ça, c'est carrément top. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà.
Non, mais c'est bon. Je pense que le message est passé. On voit bien, enfin moi en tout cas, je le vois, mais je pense que tout le monde le ressentira. C'est pas du tout la fin du chemin, loin de là, mais on sent déjà que après 10 ans de militantisme, ça, les lignes commencent à bouger, que les gens commencent à s'y intéresser pour la globalité de la plante, et c'est vraiment génial, c'est vraiment très beau. Karl, j'ai adoré, là, ça va faire une heure qu'on parle.
Ah ouais, okay.
On a abordé tous les sujets qu'on s'était dit. On pourrait en parler encore pendant 3 heures en divagant. Okay. Pour faire... En fait, il y a beaucoup de choses que tu as dites qui m'ont marqué. Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de mieux comprendre et qui ont envie de rejoindre un peu le mouvement?
Ok. Ben, on a un sujet que j'ai pas beaucoup parlé là depuis tout à l'heure, je le regarde, c'est le syndicat polynésien du chanvre, le SPC.
Bah oui, bien sûr, allons-y.
Ouais. Donc le syndicat polynésien du chanvre, il est né justement à la suite de ces événements de 2020, le plan de cannabis qui a été planté, les premiers travaux qui ont commencé avec le gouvernement, cette arrêté présidentiel qui a été accordé à notre institut de recherche pour la culture, ainsi de suite, tout ça. Et lorsqu'on a mis ce syndicat polynésien en chanvre, ce syndicat polynésien du chanvre en place, c'était dans un objectif très bien, très précis. C'est la place du Polynésien en Polynésie par les Polynésiens dans la structuration de la filière. C'est qu'on ne soit pas oublié. On veut être force de proposition, non pas être une force d'imposition. Devant ce qui s'est pas, devant les travaux qui commençaient. Je voulais remercier notre président, M. Philippe Catelin, qui est venu à ma rencontre. On s'est vu, on a discuté et ensuite il m'a proposé de faire ce syndicat. Et là, j'attendais ça depuis 10 ans. En fait, tu vois, il est arrivé, il me propose ça. Je me suis dit, ah, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le travail associatif est un travail à but non lucratif. C'est pas pareil. C'est pas du tout des choses qui sont dans le même objectif. Et il me fallait à un moment donné professionnaliser tout ça. Il ne faut pas rester juste dans la filière bon samaritain, c'est comme ça que moi j'appelle. On était dans le système bon samaritain. Et la mise en place de ce syndicat-là, j'étais vachement content. Et lorsque le président m'a proposé d'être président, moi j'ai dit non, je ne veux pas. Parce que je n'ai pas fini mon travail à l'association et je veux continuer mon travail à l'association, c'est très différent. Et là, il a demandé à ce que. Moi, j'ai demandé à ce que ce soit lui qui soit le président. Il a accepté. J'ai accepté d'être son président adjoint pour le soutenir. Et même si je ne suis plus président adjoint, je le soutiendrai toujours jusqu'à la fin. Mais on va comprendre une chose. Dans le syndicat polynésien du chanvre, au début, nous avions ouvert ce syndicat pour que les patentés et les professionnels puissent intégrer ce syndicat et qu'on puisse défendre justement notre position dans la filière qui allait se mettre en place. Maintenant, aujourd'hui, le syndicat s'est ouvert à toute la Polynésie. Okay. Quel est notre objectif principal aujourd'hui? On veut faire de la production, on veut faire de la transformation et on veut faire de l'exportation. Ça, clairement, ce sont les trois secteurs d'activité dans lesquels nous nous positionnons aujourd'hui en tant que syndicat. À l'heure actuelle où je vous parle, nos partenaires français, nos partenaires américains, nos partenaires allemands, nos partenaires australiens et nos partenaires néo-zélandais, aujourd'hui, font confiance au syndicat polynésien du chanvre pour le développement de cette filière en Polynésie. Et donc, ce que je voudrais dire à notre population, c'est que si nous voulons être ensemble pour développer cette filière, c'est par le biais de ce syndicat en tant que force de proposition. Ce qui fait vivre une association ou un syndicat, ce sont ses adhérents et ses adhésions. Ce n'est pas seulement, on peut avoir une équipe dirigeante qui est aussi motivée, mais elle peut aussi être épuisée. Et ce qu'elle a besoin justement, c'est de ce soutien populaire de la population, de nos professionnels. Je voulais remercier nos professionnels locaux qui ont adhéré, les pharmaciens, les labos de transformation, les grosses fortunes familiales de la Polynésie. Je voudrais les remercier tous parce qu'ils sont tous derrière nous. Nous sommes un petit territoire, très petit. Nous sommes juste 300 000 habitants. On n'a pas à se marcher les uns sur les autres. On n'est pas comme dans les grands pays où on devrait se diviser pour essayer d'arriver à quelque chose. Et c'est ça. Donc mon appel et de venir au syndicat polynésien du champ pour qu'on puisse développer ensemble cette filière. Et moi, je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, la filière, elle va se développer et nous aurons des réponses concrètes le 13 juin lorsque nous rencontrerons le président du pays. Et nous pourrons vous apporter des réponses concrètes le 18 juin lors de notre 12e édition du 18 juin. Ce sera 10 ans pour l'association aujourd'hui. Et je voudrais big up vraiment du fond de moi tous ceux qui sont en France. Tonton Romain, merci pour cette émission. Tonton Damien, merci beaucoup pour l'émission. Merci
Merci à
Placide.
toi.
Merci tous ceux qui sont en France. Et mon ami Jean-Pierre Galland. Et mon ami Éric Chapelle qui est au ciel aujourd'hui. Big up. Tati Bénédicte Desforges, Police contre la prohibition. Tati Fabienne Lopez, je voulais te remercier. Je te fais de gros, 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 gros bisous. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire, Tonton.
Eh bien, écoute, Karl, merci beaucoup. Tu vois, comme ça conclut parfaitement la discussion qu'on a eue. C'est vrai que je me suis laissé attraper par la discussion et qu'il fallait évidemment parler du SPC et tout ce que vous faites.
C'est ça.
Merci beaucoup. Vraiment, je trouve que ça fait beaucoup. Je suis sûr. Déjà, je vais continuer à te suivre à fond sur Facebook.
Merci d'avoir.
Et je suis sûr que tous ceux qui vont t'écouter te suivront aussi.
Yes. Parce que prochaine émission, ça serait bien de faire avec Tonton Phil, le président du SPC. Ça sera un autre level aussi, franchement. Ça sera top, quoi. Moi, j'aimerais bien que vous le faites, quoi. Voilà, c'est juste.
Ok.
Je te remercie. Okay. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, voilà, moi, j'ai plus rien à dire. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est surtout des remerciements. Moi, je l'appelle la French Connection. Et cette French Connection, Frenchy Canoli, vous tous là, Normal France, Kenzie. Si on vous avait tous avec moi ici en Polynésie, on serait allé plus vite, beaucoup plus vite. Je crois qu'on aurait fini.
Oui, mais il faut bien aussi que chacun a ses porte-paroles. Et Philippe et toi, vous êtes là-bas. Il y a bien une raison pour ça. Vous le faites très bien. Je pense que le SPC a de très beaux jours devant lui. Karl, merci beaucoup. On va tout mettre dans la description pour qu'on puisse te suivre. Et écoute, affaire à suivre. Merci beaucoup encore.
Marolo, allez, bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.